Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de donner lecture d'une brochure rédigée en anglais par Clarence Sexton, traduite en français par Nicole Himbry, intitulée « Dieu a tant aimé le monde ». La Bible stipule ce qui suit. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, que notre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Dans un autre passage, la Bible nous dit aussi que la vie est comme une douce brise qui frôle notre visage pour disparaître par la suite. Notre séjour sur terre est de courte durée, suite auquel nous passons à la vie éternelle. Le Seigneur a pavé la voie pour que nous soyons avec lui pour toujours. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le ciel est un endroit réel. Il y a un vrai ciel. Jésus-Christ a dit lors d'une occasion « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a véritablement un enfer. Si vous croyez ce que Jésus-Christ a dit à propos du ciel, vous devez aussi vous rendre compte qu'il a aussi parlé de l'enfer. Il relate à cet égard l'histoire d'un homme qui est mort et est allé en enfer en ces termes. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » La vérité consiste dans le fait que si nous croyons ce que le Seigneur a dit à propos du ciel, nous devons croire ce qu'il a dit de l'enfer. Nous avons été créés pour une vie éternelle, et chaque être humain vivra aussi longtemps que Dieu lui-même. Au-delà de la porte de la mort, nous vivrons à jamais dans un de ces deux endroits, le ciel ou l'enfer. Nous vivrons soit avec Dieu, soit sans Dieu. La vie éternelle, où ? Chaque être humain a rendez-vous avec la mort, suite à laquelle il sera soit au ciel, soit en enfer. Où irez-vous ? Il n'y a pas une question qui mérite autant d'attention. En fait, Jésus a dit à cet égard à un homme venu vers lui sous le couvert des ténèbres, « Ne t'étonne pas que j'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Nicodème était un homme très pieux, mais posa quand même cette question au Seigneur. « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui expliqua qu'il s'agissait d'une naissance spirituelle. En d'autres termes, la nouvelle naissance est une œuvre divine. Nous naissons de Dieu. Tous les hommes ont péché. Nous avons tous péché et sommes morts de nos péchés, d'où le besoin d'une nouvelle naissance spirituelle. La Bible nous enseigne dans l'épître de Paul aux Romains ce qui suit, chapitre 3, verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Dans ce même chapitre, Dieu énumère les œuvres mauvaises de l'humanité. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperies avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et leur malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par tous, Jésus-Christ me rappelle que je suis un pécheur au même titre que toi. Ma femme a grandi au sein d'une famille baptiste où le père, prédicateur, est mort dans un accident de voiture à l'époque où elle avait 5 ans. Il était de retour des funérailles où il était parti pour conforter une famille dans son deuil. Ma femme, son frère et sa mère étaient assemblés dans la cuisine, préparant un gâteau pour le surprendre. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Il était mort sur le champ quand sa voiture est entrée en collision avec une autre. Suite à la mort de son mari, ma belle-mère prit la relève. Elle emmenait sa fille à l'église le dimanche, matin et soir, ainsi que chaque mercredi. Elle lui parlait du Seigneur et du plan du salut en Jésus. En revanche, mon frère, mes deux sœurs et moi avons grandi dans un milieu différent de celui de ma femme. Notre père était un joueur professionnel. Mais abstraction faite de nos différends, nous avions tous le même problème. Les problèmes du monde ne proviennent pas du mensonge, mais dans ce qui en est la cause. Il en est de même de l'immoralité. Chaque jour, 5 000 personnes aux États-Unis d'Amérique usent de la cocaïne. Et pourtant, le problème n'est pas la drogue. En fait, tous les fléaux et leurs causes sont renfermés dans ce petit mot « péché ». Nous sommes tous des pécheurs, et la Bible déclare à cet égard « car tous ont péché ». Elle nous enseigne aussi que le prix du péché est la mort et l'enfer, qui, dans leur essence, signifie une séparation d'avec Dieu. Donc, chaque manifestation du mal est le résultat du péché originel. Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus est mort pour la rémission de nos péchés. Je peux aller n'importe où et déclarer à n'importe qui je croise, « Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi, pour vous ». Il porta nos péchés en son corps sur la croix. Dans chaque île de la mer, dans chaque continent, parmi toutes les races et les nationalités, les hommes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul en parle à l'Église dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vaine. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est une bonne nouvelle, à la condition que nous l'ayons écouté avant de mourir. » La Bible nous déclare dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, que « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » L'histoire la plus remarquable qu'on ait jamais entendue, c'est celle du calvaire, où le rachat des hommes fut accompli par la mort de Jésus. Né d'une vierge, conçu sans péché, il ne commit jamais un seul péché. Celui qui ne connaissait pas le péché, priait sous l'agonie de nos péchés, sachant que sur la croix, il les consumera. Dans les ténèbres de Gethsémanie, à la lueur des torches, des hommes, lanternes à la main, sont venus pour le détenir. Il se dirigea vers eux. Que de fois, debout dans ce même jardin, terre de la Bible, je revis cette scène. Il aurait pu s'enfuir, me dis-je, mais il est resté sur place. La Bible nous enseigne que Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et dit aux gardes, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. En toute liberté, il se livra aux gardes. Volontairement, il s'offra à eux. Sous l'emprise de la colère, Pierre tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite qui lui fut rattachée par Jésus. Le lendemain, Jésus fut livré à Pilate pour faire la navette entre lui et Hérode. Portant une couronne d'épines, le sang coulant de ses mains et de ses pieds, il fut raillé et ricané par une foule hurlante, demandant son sang à grands cris, s'écriant « À mort, à mort, crucifie-le et relâche Barabbas ». Une horde humaine s'approcha de lui et dit « Salut, roi des Juifs !» et le revêtit d'un manteau de pourpre. Jésus, portant sa croix, sortit vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu « Golgotha ». Accablé sous le joug de cette souffrance physique, ses mots sortirent de ses lèvres « Tout est accompli !» Ainsi, subissant la conséquence finale du péché, il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Sur la croix, il fut fait péché. Il fut abandonné de Dieu. En expiant le péché par son sacrifice, il racheta l'humanité entière. Désormais, le ciel est ouvert à tous ceux qui croient en lui et en sa résurrection. La pierre déposée au tombeau du Christ a été roulée. Le linge mis sur la tête de Jésus a été mis à une place à part pour que nous croyions en ce qu'il a dit. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ?» Et la sœur de Lazare de dire, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Tous les hommes sont sauvés par le mérite de Jésus-Christ. Jésus est mort pour tous les hommes. Il y a un seul moyen d'être sauvé, c'est de croire au Fils. On croit souvent qu'en vivant selon les règles d'or ou en étant la fille d'un prédicateur, on peut aller au ciel. Ce n'est pas le cas, car nous sommes tous les débiteurs de Dieu, tous des transgresseurs, et seuls dans l'agonie de la croix, Jésus consomma nos péchés. Nous sommes ainsi privés de la gloire de Dieu et sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. En fait, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le sang justifie. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le pécheur pardonné aura accès au ciel. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons été rachetés et sauvés par la grâce de Jésus et la Bible en donne l'indication à tous les pécheurs qui demandent la repentance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible enseigne que la foi est le seul accès auprès de Dieu. Des hommes, dans le monde entier, passent leur temps en prière, en œuvre honorable, dans l'intention de se faire accepter par Dieu. Et cependant, la seule chose que nous puissions faire, c'est de croire en lui. Il y a un siècle, Charles Spurgeon, prédicateur, a dit à ce propos, « Si mes œuvres m'avaient mené au ciel, marchant ainsi dans ces rues d'or, à travers la porte de perles, et ayant vu la ville de gloire, je me serais écrié, « Seigneur, je ne mérite pas d'être là. Par contre, je me serais réjoui dans cette merveilleuse place si j'y avais eu accès par la voie de la rédemption de mes péchés, voie accomplie par Jésus lui-même. » En conclusion, vous vous demandez, « Que dois-je faire ?» Permettez-moi de vous faire part de mon histoire dans la foi. À l'âge de mon adolescence, le directeur des jeunes choristes m'a posé la question suivante, « Clarence, es-tu un chrétien ?» Je lui répondis par l'affirmative en lui disant que j'allais régulièrement à l'église et que j'avais une Bible. Il a compris ce dont je manquais et il m'a expliqué tout ce que je vous ai écrit dans cette brochure. On a prié ensemble, j'ai confessé à Dieu que j'étais un pécheur, besoin d'un sauveur. J'ai cru au Seigneur Jésus et j'ai été sauvé. Je sais qu'un jour je serai au ciel avec Dieu. Vous pouvez me rejoindre si vous croyez en lui. Nous sommes tous des pécheurs, sauvés par les mérites de Jésus-Christ. Là-dessus, je vous invite à me joindre dans cette prière. Seigneur Jésus, j'admets que je suis un pécheur. Je sais que tu es mort pour la rémission de mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Pardonne-moi mes péchés. Je témoigne que tu es mon sauveur. Aide-moi à vivre à jamais pour toujours. Au nom du Christ, je prie. Amen.